Ce soir, sur Campus Grenoble.
90.8.
Nous ferons ce qui est interdit.
Nous irons ensemble à la buvette.
C'est l'apéro.
Phonie.
L'exception radiophonique.
L'apérophonie.
De la culture.
Et de la musique.
Au shaker et à la cuillère.
Campus Grenoble 90.8.
Bonsoir, bonsoir, bienvenue sur Campus Grenoble 90.8. Je m'appelle Samuel et mon truc à moi, c'est de faire des entretiens avec des gens qui viennent me parler un petit peu des films qu'ils aiment bien, des œuvres d'art qui les ont touchés particulièrement. Et ce soir, donc, j'accueille Johanna. Johanna, salut.
Salut.
Donc Johanna, donc tu bosses là en fait.
Ouais.
Clairement, je suis pas allé très loin pour
j'ai
tapé direct dans la direction de Campus Grenoble.
En plein dans le mille.
C'est ça. Rapidement, comment tu pourrais te définir déjà, qu'est-ce que tu fais ici au sein de la radio et
ouais.
Et qu'est-ce que t'aimes aussi comme film?
Ok. Ouh, vaste question ça par
très,
contre.
Très, très vaste.
Donc oui, donc moi je suis Johanna, j'ai 23 ans et je suis en mission de service civique du coup chez Campus Grenoble. J'ai commencé il y a un mois à peu près, un peu plus d'un mois, et je vais être en mission du coup pour 8 mois. Donc je reste dans le coin jusqu'à mi-juin à peu près.
Okay.
Et du coup, j'ai fait mes études en audiovisuel, ce qui fait que j'ai pas mal étudié et regardé de films et...
Ouais.
Et c'est très compliqué du coup de définir les films que j'aime en particulier, mais justement, celui dont on va parler aujourd'hui est mon film préféré.
Ah, donc ça va peut-être représenter un peu
exactement.
Le spectre.
Voilà. Ouais. Et du coup, globalement, je pense que la plupart des films qui vont soit traiter de cette thématique, soit être un petit peu dans cette ambiance assez particulière, cinématographiquement parlant, ça va pas mal me séduire, ouais.
Et donc, le film d'aujourd'hui, donc je te laisse nous dire le film d'aujourd'hui.
Oui, j'ai pas osé le dire, j'étais pas sûre.
Vas-y, fonce.
Du coup, on va parler ce soir de Eternal Sunshine of the Spotless Mind.
I'm not a concept, Joel. I'm just a fucked up girl who's looking for my own peace of mind. I'm not perfect.
I can't see anything that I don't like about you.
But you
right
will.
Right now, I can't.
But you will. You know, you will think of things. And I'll get bored with you and feel trapped, because that's what happens with me.
Okay.
Okay. Okay.
C'était donc un extrait d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind, donc sorti en 2004, réalisé par Michel Gondry.
Exactement.
Donc là, ce qu'on vient d'entendre, c'est concrètement un peu la fin du film. Donc,
ouais.
Autant le dire maintenant d'ailleurs qu'on va spoiler totalement, en fait,
ouais, complètement.
Pour le bien d'émission, pour aussi pour comprendre un peu du début à la fin ce qui toi t'as plu dessus
ouais.
dans ce film, quoi. Juste pour resituer un peu le film, donc c'est un film avec Jim Carrey dans le rôle principal, avec Kate Winslet aussi,
ouais.
et tout plein de gens aussi, Mark Ruffalo, Elijah Wood, Kirsten Dunst aussi, et
ouais.
Tom Wilkinson, donc un super casting. Quoi.
Un très chouette casting, effectivement.
Pour resituer aussi, vite fait, la filmo de Michel Gondry, donc il a fait La Science des Rêves aussi en 2006. Le très cool Soyez Sympa Rembobiné,
très chouette
j'adore,
aussi. Ouais.
2008 celui-là. Et plus récemment, L'écume des jours en 2013. Et ouais. il a fait pas mal de clips aussi, notamment un clip de Björk.
Ah, je
sais
pas.
Beaucoup, ouais, pour Björk, énormément.
Okay.
Les White Stripes aussi. Et un peu Rolling Stone, tranquille.
Ah,
Mathieu
ouais.
Chédid. Voilà, il se met bien. Donc,
il se met bien.
C'est cool. Donc, ouais, rapidement, comment tu pourrais, avec tes mots, raconter ce film, voilà, comment tu pourrais le définir,
ouais.
en tout cas, de quoi il parle?
Ouais, alors j'ai pris pas mal de notes justement pour éviter
ouais.
de trop m'éparpiller dans ce genre de questions. du coup, donc le film va retracer donc l'histoire de Joël et Clémentine, donc Joël qui est joué par Jim Carrey et Clémentine par Kate Winslet,
mmh.
Qui du coup se rencontrent, se mettent en couple, tombent amoureux. Puis on a voilà, une relation qui se craquelle, qui s'abîme, jusqu'à les détruire. Et en fait, sur la fin, chacun ne voit plus que les côtés complètement exaspérants, frustrants de l'autre et de leur relation.
Mmh.
Et à tel point que quand Joël apprend que Clémentine a fait appel à une société pour le faire effacer de sa mémoire. Il décide de manière un peu impulsive de faire la même chose et de supprimer de sa mémoire chaque souvenir, chaque élément qui le rattache à Clémentine et à leur relation.
C'est ça. Donc voilà. Du coup, le film est en grande partie consacré à cette perte de souvenirs et à le processus d'effacement de souvenirs de Joël. Et donc on est à la fois dans sa mémoire et en parallèle dans la chambre où il est posé et où les gens de la clinique s'affairent autour de lui, font un peu de la merde aussi. si bien que y a une intervention de ces personnages-là dans le rêve. Je dis rêve d'ailleurs parce que finalement, ça ressemble un peu à un rêve. Enfin, c'est plus monté comme un rêve, à la fois souvenir, à la fois rêve, parce
c'est
que ces souvenirs sont mouvants, ils sont changeants. C'est un truc assez poétique comme ça. Pourquoi ce choix? Je te laisse une question très ouverte, mais qu'est-ce qui t'a poussé, quand je t'ai parlé de ça, à partir sur ce film-là?
Alors, donc déjà, c'est mon film préféré.
Oui, du coup.
Moi personnellement, c'est un film que j'adore et qui m'a toujours énormément parlé. Et en fait, dès, je pense, le premier visionnage où je devais, je pense, être, je crois que je devais être au collège. C'est tout de suite un film que j'ai trouvé super riche, mais vraiment à tous les niveaux, que ce soit du coup au niveau de son casting, au niveau du sujet qui est traité, au niveau du montage, au niveau du scénario, au niveau de la photographie, au niveau de la musique. Enfin vraiment, il n'y a rien qui m'a semblé être pas bon, ou en tout cas qui ne m'a pas touchée dans ce film. Enfin, ça a vraiment tout de suite pris sur moi et j'ai adoré. Et j'ai beaucoup aussi grandi avec ce film, donc ça me parle complètement, quoi.
Ouais, du coup, c'est un film que tu vois quand t'es adolescent, donc c'est sûrement aussi c'est le moment où tu te construis un peu. Est-ce que c'est un truc que t'avais besoin de voir à ce moment-là? Est-ce que c'est intervenu à un moment de ta vie déjà l'adolescence est un moment de construction, donc c'est sans doute important de voir une histoire d'amour comme ça, mais est-ce qu'il y a quelque chose de particulier qui fait que ça t'a accroché à ce point-là? Ça aurait pu être autre chose
Je saurais pas vraiment l'expliquer pour le coup, puisque la première fois que je l'ai vu, c'était sous les conseils de ma sœur qui l'avait vu et qui aime beaucoup ce film. Et la première fois du coup que je l'ai vu, c'était avec elle. Et en fait, c'était plus par curiosité qu'autre chose, et c'était plus par confiance par rapport à l'expertise de ma sœur. Et il n'y avait pas en fait un contexte où je me suis dit « Ah, ce film-là, j'ai envie de le regarder parce que je suis dans telle situation aujourd'hui. » Mais je pense que le fait de l'avoir vu quand même assez tôt, en âge, ça a clairement impacté plein de choses.
C'est la révélation, du coup.
Un peu, ouais. Je pense que depuis, en fait, je le regarde... je pense que depuis la première fois que je l'ai vu, je dois le regarder peut-être une à deux fois par an.
Ah oui, ok.
Quelque chose comme ça, enfin peut-être parfois plus. Donc je le regarde quand même très souvent.
Qu'est-ce qui fait que tu le regardes des fois? Est-ce que c'est une tradition, ou est-ce que c'est juste comme ça, d'un coup ça te prend pour te rassurer de quelque chose?
C'est plus de manière impulsive, ou d'un coup je me dis « Ah, j'ai bien envie de le revoir, j'ai bien envie de me replonger dans cette ambiance. » Et ça, c'est quelque chose dont je parlerai sûrement un petit peu plus tard. Mais je sais qu'à chaque fois que je vais le voir, je vais découvrir quelque chose que je n'avais pas vu au visionnage précédent, même en l'ayant vu 20 fois, 30 fois. Quoi. Donc c'est aussi ça, une des richesses de ce film, je trouve.
Ouais, c'est ça. C'est marrant parce que moi, je l'ai vu donc trois fois. Donc c'était la troisième fois que j'ai regardé pour l'émission.
Ouais.
Et en fait, je me suis rendu compte que j'avais tendance à oublier plein de trucs de ce film. Et c'est justement ça qui est hyper drôle, parce que c'est un film pour moi qui est assez confus, mais c'est fait exprès, parce que c'est un truc de confus, poétique, quoi. Ouais. C'est un peu un film qui se dérobe un peu à toi, et moi j'ai eu beaucoup de mal à retrouver ce qu'il y avait dans ce film. Et je suis sûr que là je l'ai un petit peu en tête vite fait, mais je suis sûr qu'il va disparaître un peu petit à petit, parce que je trouve que c'est une belle forme pour ce film que d'être parfois un peu oubliable sur certaines choses, quoi. Enfin, y a un truc comme ça que je ressens, en tout cas.
Ouais, carrément. Ça me parle complètement. J'ai aussi l'impression que c'est le genre de film que t'as besoin d'entretenir, entre guillemets, de regarder régulièrement pour pas perdre en fait ce que t'as compris du film. Moi, je sais que les peut-être trois ou quatre premières fois que je l'ai vu, c'était vraiment dans un objectif de bien comprendre tout le film. Ouais. Donc, ouais.
Ouais, c'est ça, parce qu'il y a plein de choses qui... Enfin, on revient en arrière, on va en avant, on a des flashbacks, on a aussi dans le... Enfin, dans les souvenirs, on a énormément de va-et-vient, de choses qui se cassent, qui se craquellent, on ne sait pas si c'est la réalité ou pas, si c'est le vrai souvenir ou non. Ouais, effectivement, c'est ça, c'est assez complexe. Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, tu aimes toujours ce film, en fait? Pourquoi est-ce que tu as beau le voir, mais pourtant, c'est toujours aussi présent?
Ouais.
Est-ce que c'est aussi présent, déjà?
Oui.
Ouais, toujours.
Oui, vraiment. Ouais. Je pense même que c'est un truc qui grandit, qui se développe.
Ouais. De plus en plus.
Ah ouais, c'est fou. Enfin, vraiment, je me sens... toujours plus attachée à ce film à chaque fois que je le revois. Enfin, c'est justement ce que je disais un petit peu tout à l'heure, c'est que à chaque visionnage, il va y avoir des détails que je vais remarquer, que j'avais jamais vu avant, même en l'ayant vu beaucoup de fois, et où je vais me dire, mais c'est incroyable d'avoir eu l'idée de faire ça, en sachant très bien que probablement personne ne va le remarquer.
Ouais.
Et d'avoir eu quand même l'idée de se dire, ah bah là, par exemple, il y a une pancarte en carton sur laquelle il y a quelque chose d'écrit, et en plein milieu du souvenir, on va faire disparaître ce qui est écrit dessus progressivement. Et enfin, ça, c'est un truc dont je me suis rendu compte là, ces derniers jours, en regardant à nouveau des extraits. Et enfin, je trouve ça fou, en fait. Enfin, donc déjà, voilà, c'est dans cette idée de... je continue de trop aimer ce film parce que j'ai l'impression qu'à chaque fois que je le vois, il va continuer de m'apporter des trucs que je connaissais pas avant.
Ouais.
Et je trouve aussi que, donc comme tu l'as dit, il a été du coup réalisé en 2004 et je le vois pas du tout vieillir, ce film.
Il y a
des films que j'aimais beaucoup il y a quelques années et que je revois aujourd'hui en me disant, bah, ça avait du sens pour moi de beaucoup aimer ce film à ce moment-là, mais maintenant je sens qu'il y a des trucs qui ne me correspondent plus, ou je sens que le film a vieilli, ou que le cinéma a évolué et que du coup ça ne colle plus. Mais vraiment pas pour celui-là, genre je ne le vois pas vieillir, même si le cinéma globalement évolue et que moi je vieillis. Enfin, je vieillis, je grandis.
Oui,
je
bien sûr. Désolée de te l'apprendre, si, ouais.
Ouais, j'aime pas trop me dire que je vieillis, je préfère me dire que je grandis encore. Mais ouais, je trouve qu'il vieillit pas et qu'il apporte toujours des trucs.
Bah justement, tu dis grandir, est-ce que c'est un film qui t'a aidé à grandir, justement? Parce que c'est quand même un film très fort pour le thème,
ouais.
Sur l'amour qui peut être autant beau que destructeur.
Ouais.
Est-ce que ça, quelque part, soit conditionner ton propre rapport à ça, ou est-ce que ça, au contraire, conforter dans autre chose? La question.
C'est super dur à faire empathiser. Mais en fait, je pense que c'est un film qui m'a beaucoup appris en termes de prendre du recul par rapport à mes souvenirs. Justement par rapport aux relations amoureuses, mais aussi aux relations en fait en général que tu peux entretenir avec n'importe qui. Bien sûr. Réussir en fait à prendre du recul et à vraiment voir le tableau en entier, quoi, et à pas juste te focaliser sur ce qui va hyper bien ou ce qui va pas bien, mais réussir vraiment à tout voir. Et enfin bon, c'est encore un processus sur lequel je travaille parce que c'est très compliqué. mais là-dessus, je sais que ce film m'a beaucoup appris et m'apprend encore beaucoup, parce que c'est hyper important, en fait, de ne pas avoir un regard biaisé sur ces relations. Et en même temps, c'est quelque chose que...
Et en même temps, c'est pas vraiment possible, parce qu'on est toujours biaisé. Il y a un truc, une scène vraiment intéressante dans le film, justement, c'est la scène où il est sous la table. Il est sous la table de la cuisine, et il y a sa mère qui est dans la cuisine. Mais il est adulte, il est sous la table est immense, et il est adulte. Donc il y a... j'aime beaucoup ça, cette reconstitution du souvenir tel qu'on le voit en fait aujourd'hui, et qui tient aussi beaucoup du rêve. En fait, ça aurait pu être hyper angoissant, tout ce truc-là, tout ce film en fait. Mais en fait, il y a plus un côté sécurisant qui est assez. Alors moi, je l'explique par une manière par les acteurs qui sont là dans ce film, en tout cas dans les rêves, les acteurs du rêve, je veux dire, qui selon moi en fait sont pas aliénés, je sais pas si tu vois ce que je veux dire, c'est que ils sont pas, il peut leur parler et il peut leur faire changer d'avis, il peut se faire aider d'eux. Donc il y a un aspect hyper sécurisant qui est pas juste des souvenirs froids et programmés comme c'était dans une mémoire. C'est non, lui-même, il refait ses propres souvenirs, et c'est pour ça que ça tient un peu du rêve quelque part, c'est que il réinterprète un peu à sa façon.
Ouais, il reste acteur de ce qui se passe.
Ouais, il y a un truc hyper hyper sécurisant quoi, finalement d'être dedans ouais. quoi, même quand il va dans les humiliations.
Ouais, vachement.
C'est ça.
Ouais, 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 complètement. Et oui, je voulais aussi parler de la fin. Enfin, en fait, ouais. dans le fait que j'ai un attachement vraiment particulier à ce film, ouais. le tu me demandais donc comment j'ai grandi avec, etc.
Ouais.
Je me rends compte aussi que la fin du film, donc encore une fois, spoiler, etc. que en fait, selon l'attitude que j'ai et le moment de ma vie où je suis ouais. pendant que je regarde le film, je vais avoir une vision de la fin qui va être complètement différente. Donc, soit je vais l'avoir de manière très cynique ouais. en me disant bon, bah en fait, ça veut simplement dire que en amour, on va toujours même sans s'en rendre compte, s'inscrire dans des schémas malsains et dans lesquels on va pas s'épanouir et qui vont de toute façon mal finir.
De toute façon, c'est tous les mêmes, c'est trop chiant. ça reste toujours la même chose.
Voilà. Ouais. Soit au contraire, je vais le voir d'une manière très positive en me disant, bah les personnes qui sont faites entre guillemets pour être ensemble et qui sont compatibles vont se retrouver ensemble de toute façon et vont avoir des chances de recommencer pour que ça fonctionne. Bon, globalement, je pense être assez lucide sur le fait que c'est un film plutôt cynique, puisque
ouais,
au-delà de l'intrigue principale, je me suis rendu compte que toutes les autres figures de couple qui sont présentes dans ce film, c'est que des couples malheureux.
Ouais.
Et qui ne fonctionnent pas, et où vraiment les gens sont frustrés ou tristes, ou les deux. Et donc, c'est, ouais, ça, ouais. Ça tend plutôt vers le cynique.
Oui, c'est ça, c'est obligatoirement. Vouloir essayer d'oublier l'autre souvent ouais. Et bah d'ailleurs on va pouvoir en parler d'ailleurs avec la scène qu'on va analyser tout à l'heure, c'est, je pense que c'est beaucoup sur ça que c'est lié aussi. Sinon ouais c'était assez assez rigolo, enfin moi je voulais revenir un peu sur les souvenirs et la manière dont ils sont faits. En fait, ils sont représentés un peu comme un espace presque cartographié. Enfin, il dit souvent il est hors de la cartographie, hors de la carte.
Ouais, c'est vrai.
L'impression même qu'en fait, il s'oriente carrément dans cette pensée-là. Mmh. Je crois que c'était Kant, je crois, qui a fait un opuscule qui s'appelle L'orientation dans la pensée. Et il y a un peu ça, il y a un peu ce truc-là où voilà, on va avoir une métaphore, enfin, on marche dans ses souvenirs, on passe d'un espace à l'autre avec des transitions très très fluides. Mmh. Et voilà, donc il y a une espèce de monde qui se crée, un monde qui a presque un sens, presque une carte, presque une géographie, avec ses propres règles. Donc c'est, ouais, ouais, c'est pour ça aussi que beaucoup je parle du rêve depuis tout à l'heure aussi.
Ouais, ouais, c'est vrai.
Mais moi, pour moi, c'est plus un film sur, presque sur la perte de repères, la perte d'identité.
Mm.
Parce qu'en fait, oublier quelqu'un d'autre, c'est perdre une partie de son identité. Parce que bah, forcément, on a forcément une part de nous chez l'autre et vice-versa. Donc, c'est pour ça qu'il y a, ouais, je sais pas, il y a un truc presque propice à l'oubli pour moi dans ce film. Ouais, c'est très bizarre, en fait, ce rapport. Je sais pas si ça te le fait un petit
si,
peu,
ouais,
peut-être
ouais,
aussi.
Ça,
mais,
ça me parle complètement,
oui. Ouais, si. Bon, on va pouvoir écouter, je pense, là, maintenant qu'on a un peu fait connaissance sur le film et tout ça, on va écouter la BO, en fait, tout simplement. La BO, je sais plus le nom, là, vraiment.
C'est le thème.
C'est le thème, donc, d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. Donc, on va l'écouter tout de suite et on revient après tout à l'heure pour parler d'une scène en particulier et on va en parler un peu plus profondément de ce film, quoi.
Super.
Thank you.
C'était donc le thème principal d'Eternal Sunshine of the Spotless Mind. On est toujours sur Campus Grenoble 90.8 avec Johanna qui nous parle de ce film-là qui est hyper important pour elle, vu qu'elle le voit beaucoup, oui. Énormément.
Énormément.
Enfin, t'es pas lassé d'ailleurs, t'es jamais lassé, t'as jamais ce moment où t'attends la fin et tu dis ouais, c'est bon, j'ai vu, je connais.
Ah ouais, non, pour le coup, je crois que je l'ai jamais regardé pas en entier. J'ai jamais juste regardé des petits bouts ou regardé la moitié et ensuite je me suis dit ça me saoule, je m'arrête là.
Okay.
Je crois que je l'ai toujours vu en entier.
Et c'est le seul film avec lequel ça te fait ça?
Non, je pense qu'il doit y en avoir d'autres. Mais vraiment celui-là en particulier où pour l'instant je pourrais vraiment en bouffer à foison sans me lasser du tout. Mais ouais.
Ok. Donc oui, on vient d'entendre le thème du film.
Oui.
C'est vrai que je t'avais demandé aussi avant l'émission de choisir une musique en rapport avec ce film qui t'inspire vraiment. Donc t'as choisi le thème tout simplement qu'on entend à la fin et au début, enfin un peu tout le long, je crois en fait. Je dis pas de bêtises, hein. Tu connais mieux que moi du coup.
On entend plusieurs fois.
Pourquoi ce choix-là particulièrement?
Justement parce que on en entend en fait des petits bouts à pas mal de moments du film. Donc du coup, je trouvais que ça collait bien avec. Avec l'identité globale de ce film-là. Je pense que c'est vraiment ça l'idée. Et puis après, en fait, il y a beaucoup de musique globalement dans ce film.
Ouais, énormément. Ouais.
Et il y en a beaucoup qui sont très courtes pour le coup. Et en fait, le thème, c'était aussi par confort technique que j'ai choisi une musique qui soit suffisamment longue pour que ça fasse une petite pause musicale qui soit suffisamment conséquente.
Du coup, en même temps, c'est un peu révélateur parce qu'on a dit au début qu'il a fait beaucoup de clips et finalement, je ne suis pas un expert de Michel Gondry, mais peut-être qu'il y a ça aussi, peut-être qu'il monte aussi ses films un peu parfois, certaines séquences comme des clips qui va pouvoir accompagner la musique d'une certaine manière. Je pense que il y a un sens du montage assez aigu, on va dire, avec Soyez sympa, rembobiné notamment, je pense que ce sera pour être une autre émission dans ce cas on va pouvoir passer maintenant à l'extrait que tu as choisi aussi. Donc c'est ça que je demande un peu, ce qui m'intéresse c'est d'aller plus profondément dans ce film, et je pense que choisir une scène qui représente vraiment le film pour toi en tout cas, ça peut être assez parlant, et d'ailleurs je pense que c'est un très bon choix parce que ça raconte vraiment beaucoup le cœur du thème. Donc on va pouvoir écouter tout de suite.
The quote goes, how happy is the blameless vessel's lot, the world forgetting by the world forgot, eternal sunshine of a spotless mind, each prayer accepted and each wish resigned.
I want to be a great, big, huge elephant with a huge trunk like that.
Clementine! I haven't heard that one. It's lovely.
I just thought it would be appropriate, maybe.
Donc on vient d'entendre, c'est un peu le cœur du film, ça intervient peut-être même au milieu, ou à peu près vers la fin, en tout cas, donc on a entendu donc la citation d'Alexander Pope qui a donné le titre du film finalement. Alors j'ai trouvé une traduction à peu près littérale de ce que ça pourrait être. En tout cas, traduction littérale, ce serait que le sort de l'irréprochable Vestale est heureux, le monde oubliant par le monde oublié, éclat éternel de l'esprit immaculé, chaque prière exaucée et chaque souhait décliné. En gros, c'est pas la VF du film, mais c'est un truc que j'ai trouvé qui était vraiment littéral. Je me suis dit que ça serait peut-être plus pratique.
Oui, j'avais cherché aussi, et pour le coup, dans la VF, ils disent quelque chose d'un peu différent, mais qui reste en fait dans cette veine-là.
Qui essaye en tout cas d'avoir la substance de ces vers-là, qui est très compliqué, qui est assez cryptique, on va dire.
C'est très dur à traduire. D'ailleurs, je l'ai noté. Est-ce que je le partage? Donc du coup, en VF, ça a été retraduit et retravaillé, et ça donne vous qui, dans les langueurs d'un esprit monastique, ignorez de l'amour l'empire tyrannique, que vos cœurs sont heureux puisqu'ils sont insensibles, tous vos jours sont sereins, toutes vos nuits paisibles. Donc, c'est pas littéral, mais ça garde en fait bien l'idée générale.
Je trouve aussi, et qui va d'ailleurs être assez importante dans ce qu'est le propos du film, et le propos cynique même un petit peu.
Oui, exactement.
De ce film-là,
Ouais.
Donc, pour la référence, c'est un poème qu'on peut trouver dans l'Épître d'Héloïse à Abélard de Alexander Pope. Si jamais ça intéresse des gens d'aller voir lire tout Pope, ça peut arriver. On juge personne de toute façon. donc pourquoi cette citation, pourquoi ce film-là, pourquoi cette scène-là et pourquoi cette citation en particulier.
Je vais peut-être commencer par décrire en fait la scène, parce que c'est une scène qui est aussi visuelle, même si elle est pas mal radiophonique avec l'extrait audio et enfin l'extrait de la poésie.
Bien sûr, c'est hyper important. En plus, voilà. Oui, bien sûr.
mais du coup, dans cette scène, on a donc un personnage secondaire qui s'appelle Marie, ouais. Qui du coup cite la poésie de Alexander Pope. Donc on a de la musique et on a en fait donc la voix de Marie qui se met en voix off et on a des images d'un souvenir du coup de Joël et Clémentine où ils sont en fait dans la rue un soir tard et dans la rue en fait il y a une parade avec des éléphants, ouais. Et en fait on les voit on les voit parler, on les voit s'amuser et voilà, vivre un moment chouette.
Il y a une foule, il y a des
ouais.
drapeaux américains.
C'est une scène qui est aussi très, très visuelle, très dynamique.
Ouais.
Et du coup, pourquoi ce choix ? Déjà parce que du coup, en anglais, c'est la seule fois de tout le film où on entend le titre. Donc ouais. C'est assez significatif. Donc à un moment, on entend dans le poème « Eternal Sunshine of the Spotless Mind ouais. » qui du coup pourrait littéralement se traduire par... je crois que c'est dans ta traduction, mais ce serait le soleil éternel de l'esprit immaculé, quelque chose comme ça.
Oui, c'est ça, oui. Enfin, c'est pas ce que j'avais là, mais effectivement, si on traduit, oui, vraiment, c'est ça, ouais.
Ouais, ouais. Donc, et qui, pour moi, traduit globalement, en fait, l'esprit du film, en fait, qui est qu'on peut avoir un regard... biaisé sur l'amour, sur nos relations, à partir du moment où on a en fait l'esprit immaculé, donc qu'on n'a pas été entaché par des expériences compliquées ou par une vision plus cynique des relations. Et je trouve que c'est une belle formule pour décrire un état un peu naïf qu'on peut avoir parfois au début d'une relation ou même globalement dans ses relations en général. Et moi, ça m'a beaucoup parlé et j'ai trouvé ça très très beau comme façon de le décrire. Ouais. Voilà, et en fait, aussi globalement, vu que je me suis beaucoup intéressée à ce film en faisant des recherches, en lisant des articles ouais. dessus, en fait, je me suis rendu compte que cette scène, elle me touchait beaucoup parce que je la trouvais très spontanée. J'avais vraiment l'impression qu'à ce moment-là, on avait capté un moment qui était très vrai, qui avait l'air très sincère et qui avait vraiment pas l'air joué.
Ouais,
Et en fait, en faisant des recherches sur le film il y a plusieurs années, j'avais découvert que du coup, cette scène-là n'était pas prévue à la base. Et que en fait c'était improvisé et que quelques heures avant de la tourner ils ont vu en fait une info selon laquelle il y allait avoir à minuit dans telle rue une parade avec des éléphants et du coup en fait ils y sont allés vraiment sur un coup de tête très peu de temps avant et en fait pendant cette scène il y a une autre partie qui est improvisée qui est que du coup c'est pas très radiophonique mais il y a un moment dans cette scène où en fait on va voir Joël qui est un petit peu perdu dans la foule et qui regarde autour de lui à la recherche justement de Clem qui du coup dans le souvenir a disparu
ouais.
Et en fait en me renseignant j'ai appris que en fait c'était donc Michel Gondry qui avait récupéré entre guillemets Kate Winslet
le paquet et ouais, mis à côté.
Voilà
ouais.
Il avait pris en fait l'actrice donc Kate Winslet pour l'éloigner de Jim Carrey
en spontané comme ça c'était,
voilà ouais. Et en fait le moment qu'on voit là c'est pas forcément quelque chose de joué, c'est vraiment Jim Carrey qui cherche Kate ouais. Winslet dans la foule
qui est un peu perdu
qui a été très brillamment joué du coup par Jim Carrey qui ouais. du coup cherche en paniquant et qui a le réflexe de dire Clem en cherchant autour de lui donc du coup ouais, le fait d'apprendre tout ça sur cette scène ça m'a confortée dans le fait que ça a l'air très spontané et que je trouve que c'est super intelligent de d'avoir décidé de le créer comme ça.
Ouais.
Du coup, ça me touche particulièrement.
Et ouais, non, t'as raison. D'ailleurs, je fais une petite digression, mais le jeu d'acteur de Jim Carrey aussi, ça m'a refrappé une autre fois encore, après avoir vu il y a pas longtemps des Ace Ventura et des choses comme ça. Et cette retenue qu'il a, qui est pas feinte, enfin, il se retient pas non plus énormément, c'est vraiment, il le joue vraiment au premier degré, il est vraiment là. Et même quand il fait des grimaces, parce qu'il adore la grimace, ça a un sens et c'est pas surjoué comme il le fait dans The Mask ou dans Ace Ventura, quoi. Mm-hmm. Donc, ouais, c'est vraiment le bon acteur pour ça aussi, je pense. Il a eu un sacré pif aussi de prendre cet acteur-là qui est le surjeu parfois, le surjeu par excellence, qui. Pour ça, quoi.
C'est vrai qu'on n'a pas du tout l'habitude de le voir dans des rôles comme ça. Et pour le coup, il est incroyable dans ce rôle parce qu'il a l'air. Enfin, il est d'une sincérité qui est assez. Enfin, bouleversante, je trouve.
Donc, exactement, c'est sincère.
C'est génial.
Ouais. Et il fait très bien le côté enfantin quand il est dans ses rêves d'enfant. Mais il ne le fait pas en surjeu, encore une fois. Il est vraiment très premier degré. Il fait vraiment l'enfant. Et ça, c'est vraiment rare aussi, je pense, d'être aussi naturel que ça. Je reviens sur le fait que, sur la spontanéité, tu parlais de la spontanéité de ce moment. Mm-hmm. Donc je ne savais pas tout ça, parce que tu m'as dit que c'était quelque chose qui était spontané. Mais ça m'a frappé aussi, en fait, quand j'ai revu la scène. Parce que je me suis dit, c'est un des rares moments heureux, vraiment heureux, où ils ont finalement... ils n'ont pas de problème à ce moment-là. En fait, je me suis dit que ça pouvait se passer un peu n'importe où, cette scène. Ça aurait pu être n'importe quelle scène. C'était un moment assez simple, en fait, dans leur vie. Et je pense que c'est ça, même le propos de ce film-là, en tout cas de cette scène, c'est le fait qu'on reste simple. Et c'est peut-être ça, ces moments-là que recherche Joël, c'est les moments simples. Parce que c'est à partir de ce moment-là, je crois, qu'il se rend compte qu'il n'a plus trop envie de l'oublier. Clémentine, ça coïncide à peu près, qui se dit qu'il a plus vraiment, qui veut garder des bons souvenirs, il veut pas oublier ces souvenirs-là, ces souvenirs beaux avec elle, donc il y a un côté un peu capricieux de je veux garder tout ce qui est bon, mais tout ce qui est mauvais, je le vire. C'est un moment assez marquant, je trouve, en termes d'amour, parce que c'est vraiment très simple, il y a un truc de communion un peu, c'est une communion de couple, mais c'est une communion avec, en tant que citoyen, avec toute la foule. Citoyen américain, parce qu'il y a aussi les drapeaux qui sont là, donc il y a une espèce d'émulation comme ça, d'être avec l'autre, qui est hyper importante à ce moment-là. Et il y a une espèce de liberté anonyme qui se fait, ils peuvent assumer en fait, à ce moment-là, j'ai l'impression, l'amour, ils sont là, on peut être là pour nous deux, pour nous-mêmes, on n'a pas de compte à rendre rien, et on n'a pas de problème à ce moment-là, on profite juste, quoi.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça ressort vachement et c'est très beau et très bien fait, pour le coup.
Ouais, c'est ça. Et c'est un peu rare, du coup, dans ce film, des fois, parce qu'on nous renvoie beaucoup de destruction, de passion destructrice. Et là, c'est là que je me suis demandé, ça pouvait être ça le propos du film à un certain niveau. Bon, je ne l'ai pas vu autant que toi, encore une fois, mais... les moments simples, c'est ça qu'on essaie de repérer. Et on parlait des cycles tout à l'heure. Tous ces cycles là, est-ce que c'est justement pas assez pour retrouver cette simplicité du début et qu'après ça se complexifie, je sais pas ce que t'en penses.
C'est un peu aussi ce qu'a l'air de montrer la fin, en fait, le fait que ça fasse vraiment une boucle qui s'arrête jamais et que potentiellement à partir du moment où t'atteins le moment où c'est destructeur, ça va aller puisque tu vas tout supprimer et tu vas pouvoir une autre chance pour retrouver les moments légers et cette idée d'esprit immaculé où vraiment tu recommences tout propre, quoi.
Ouais, tout propre, sauf que visiblement, ça montre aussi que c'est pas possible parce qu'il existe des enregistrements qui est cette scène horrible qui... on écoute les enregistrements de ce qu'ils ont dit eux-mêmes sur l'autre. Et qu'ils disaient des choses horribles alors qu'ils sont justement, ils avaient tout oublié, ils s'aimaient et là ils se rendent compte qu'avant ils avaient des choses horribles l'un sur l'autre. C'est assez terrifiant comme moment, je trouve. C'est angoissant, quoi. Enfin,
ça réveille des trucs qui était très enfoui et où il se souvenait pas forcément que ça avait été enlevé très récemment, quoi.
Ouais.
Mais ouais, c'est vrai que cette scène, elle est, enfin, peut-être l'expliquer un peu plus pour que ce soit plus clair pour peut-être quelqu'un qui l'a pas vu.
Les scènes,
et en même temps, c'est tellement, enfin, on raconte tellement, enfin, si quelqu'un ne l'a pas vu, on lui a vraiment ruiné le film en même temps. Mais mais oui, du coup, il y a effectivement à la fin une scène où tous les enregistrements et tous les dossiers des patients du coup qui ont fait appel à cette société-là pour effacer leurs souvenirs leur sont renvoyés et du coup après l'effacement des mémoires Joël et Clémentine reçoivent chacun leur cassette et réécoutent comment ils décrivaient chacun leur relation de manière très négative et très frustrée avant de procéder à l'effacement, quoi. Donc c'est vrai que c'est un moment qui est super angoissant puisque les deux n'en avaient pas la moindre idée et se re-rencontre une deuxième fois en écoutant ça, quoi. Donc
c'est ça, donc on a le parallèle entre le moment où l'esprit est pur, on va dire, et le moment antérieur où c'était entaché de l'amour. Je sais pas si c'est c'est beau, putain. Waouh, c'est, je suis parti en lyrisme, c'est temps de conclure peut-être.
Apérophonie, philosophie.
C'est ça. Je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à rajouter dessus, quelque chose qui dont on aurait parlé là. Si moi d'ailleurs j'avais une question à poser, c'est que tu m'as dit tout à l'heure que tu avais fait pas mal de recherches sur ce film.
Oui.
Qu'est-ce qui t'a déjà, comment tu as fait ces recherches là, qu'est-ce qui t'a motivé à le faire, c'était, tu avais besoin de tout comprendre de ce film, est-ce que tu t'arrêtes à un certain point pour garder du mystère ou
Je pense que c'était surtout sur des questions assez précises que je pouvais me poser sur le film.
Ouais.
Donc bah typiquement cette scène-là où je me demandais un petit peu pourquoi elle me faisait cet effet vraiment très fort et pourquoi elle me parlait particulièrement. Donc en fait j'avais cherché à trouver le poème, à trouver des traductions du poème, à comprendre pourquoi ce choix-là avait été fait. Et ensuite, bah, du coup, plus largement, pourquoi cette scène-là avait l'air aussi différente des autres. Et du coup, assez naturellement, je suis tombée sur un article qui disait bah, en fait, elle est un peu différente parce qu'elle n'était pas du tout prévue. Et sinon, bah, les recherches que j'avais faites sur le film, c'était beaucoup sur la musique, sur les acteurs, pas mal du coup sur Jim Carrey, qui justement... Ouais. Et beaucoup décrit dans ce film comme justement ce rôle qu'il a dans ce film est beaucoup décrit comme un peu le rôle de grosse révélation de Jim Carrey, au-delà du fait que ce soit un acteur incroyable dans le comique et qu'il soit à mourir de rire quand il s'agit de faire des blagues, etc. Bah, il arrive aussi à jouer vraiment du dramatique de manière super intelligente. Donc
C'est un peu son Tchao Pantin.
Oh là là.
Non mais enfin, du coup cette recherche elle t'a aidé à aimer encore plus ce film. Est-ce que ça a décuplé ton envie de le revoir,
en fait, de comprendre? Je pense que oui, parce que ce film là il fait définitivement partie des films qui m'ont donné envie d'étudier en fait l'audiovisuel et de faire des analyses sur des scènes et de faire des analyses sur des scénarios, etc. Donc, je pense qu'il y a d'autres films aussi qui ont fait ça, c'est évident, mais celui-là en particulier, et en fait, celui-là, je le vois comme le premier qui m'a fait cet effet-là, où je me suis dit, j'ai envie de chercher des trucs, j'ai envie de comprendre pourquoi cette scène, elle a été faite comme ça. Et puis, en même temps, c'est ce que je disais au début, mais ce film-là, il m'a semblé tellement riche en tout et il m'a tellement mis une grosse claquasse dès un âge assez jeune que je me suis dit, mais c'est incroyable d'arriver à faire ça au cinéma, c'est fou d'arriver à faire disparaître quelqu'un d'une scène à l'autre sans même faire de coupe au final, d'arriver à faire juste disparaître quelqu'un même dans la même scène au final.
Ouais.
C'est fou d'arriver à mettre les musiques vraiment pile au bon moment. À chaque fois, c'est fou d'avoir un film qui n'est pas du tout dans l'ordre chronologique. Enfin, moi, c'était la première fois que je voyais un film qui m'avait l'air aussi désordonné et en même temps aussi aussi fou, quoi. Enfin,
aussi beau, ouais.
Ouais, voilà. Enfin, j'étais au collège, donc à ce moment-là, la plupart des contenus que j'avais vus, c'était c'était bah, chronologique en fait.
Ouais, enfin, ouais classique, narration assez traditionnelle.
Ouais, enfin, ça suivait, ouais. C'était pas linéaire, mais ça suivait un fil qui était en tout cas dans le temps, logique dans le temps, quoi. Et là, du coup, c'était la première fois où vraiment j'étais aussi intriguée par cet enchaînement de scènes où moi j'étais là, mais attends, mais avant c'était comme ça, et du coup là pourquoi il se passe ça, mais attends, mais avant il était hyper en colère, pourquoi maintenant il est hyper content, et là il se passe ça, et pourquoi, enfin je me suis posé trop de questions en voyant ce film, mais du coup c'est clairement un des premiers ou le premier film où vraiment je me suis dit mais j'ai envie d'analyser des trucs et j'ai envie d'aller plus en profondeur et de comprendre pourquoi on a fait ça comme ça et pas autrement, et pourquoi c'est intelligent de l'avoir fait comme ça.
Ouais, ouais, c'est ça, c'est un peu au panthéon de tous ces films qu'on peut voir ado et qui peuvent marquer, parce que justement, comme tu dis, ça se démarque de quelque chose de traditionnel, voilà, comme les Fight Club, trouver une altérité, une autre altérité, le côté schizophrénie, tout ça dans Fight Club, ou spoiler, putain, incroyable aussi. Si jamais, on sait pas. Non, mais voilà, trop tard, tant pis. Hein. Mais je trouve que c'est un peu ça. C'est ce genre de film qu'on voit quand on est ado, ouais, qui redéfinissent la forme qu'on n'avait jamais vue avant. Et c'est vrai qu'il est très fort en termes de montage, de chorégraphie aussi, comme tu disais, les chorégraphies dans les scènes, les espèces de transitions. Moi, ce qui m'a beaucoup marqué en le revoyant aussi, c'est cette façon de filmer le souvenir, les rêves, dans l'ombre, avec juste un point de lumière au milieu, comme ce qu'on a dans les rêves, qui est horrible, qu'on n'arrive pas à voir dans les rêves. Ce truc-là, de voir à travers un trou de serrure. Et c'était ça qui est... Il y a plein de choses comme ça qui m'ont marqué là, qui retranscrivent vachement bien ce qu'est un rêve. Je trouve que c'est peut-être celui qui retranscrit le mieux, en tout cas à ma connaissance, ce qui peut être vivre un rêve, un processus de rêve. Le temps des transitions, c'est assez fou, quoi.
C'est vrai qu'il y a un gros, gros travail de lumière et un gros travail sur l'obscurité. Ça retranscrit très bien.
L'angoisse parfois, carrément. Johanna, on va peut-être pouvoir conclure bientôt.
Ouais.
Est-ce que tu pourrais, faire une synthèse, pas forcément pour donner envie, parce qu'on espère que ceux qui ont écouté l'émission ont vu, parce que sinon ils sont un peu dans la merde.
On a vraiment tout vu.
Mais en tout cas, qu'est-ce que tu aimerais dire en 1 minute, 2 minutes aux gens pour leur dire, mais si ce film, en fait, il est trop bien, en fait,
c'est compliqué parce que
tellement.
D'un côté, j'ai envie de faire ça, et en même temps, je peux tellement comprendre que ça puisse être un film qu'on n'aime pas, parce qu'il est quand même très bizarre, enfin, il a une atmosphère qui est très particulière, et je pense que c'est le genre de film où on peut pas vraiment être neutre devant. Enfin, c'est vraiment le genre de film que moi je définis comme soit on l'adore, soit on le supporte pas. Mais du coup, c'est aussi vraiment le genre de film où je me dis que je comprends très bien qu'on puisse pas y adhérer du tout. Mais du coup, personnellement, c'est moi un film qui me parle énormément pour... pour synthétiser tout ce que j'ai dit avant, en fait, pour son casting, pour son montage, pour ses musiques, pour ses prises de vue qui sont magnifiques, pour ses scènes qui sont hyper sincères, pour la poésie qui se dégage de tout le film. Il y a une atmosphère qui est entre, comme tu l'as dit, le rêve, le souvenir, la réalité... Il y a même un petit côté un peu presque science-fiction, en fait, puisqu'on a en fait une société fictive, une entreprise fictive qui arrive à faire une cartographie de ton cerveau pour supprimer quelqu'un de ta mémoire. Rien que ça, en fait, le simple fait d'avoir eu cette idée-là, je trouve ça fou. Moi personnellement, c'est un film qui m'a fait énormément grandir, qui a fait naître plein d'amour pour le cinéma, pour les membres du casting, pour Michel Gondry. Moi personnellement, un film qui m'a énormément parlé et que j'aimerais partager autant que possible.
Ça se voit, j'espère que ça s'est entendu, je pense quand même. Parce que, effectivement,
a priori, oui.
Bien au taquet, effectivement.
Bien au taquet.
Ouais, pour conclure, qu'est-ce que tu conseillerais à des gens qui ont vu ce film et qu'ils ont forcément vu ce film? Non, mais voilà, qu'est-ce que tu conseillerais comme œuvre un peu qui ressemblait soit dans ses thèmes, soit dans son ambiance pour un peu prolonger cette expérience-là dont on parlait aujourd'hui?
Je crois que t'en avais mis de côté aussi, donc on pourra tous les deux en partager. Mais d'ailleurs, une qu'on avait, à laquelle on avait tous les deux pensé, qui est du coup le film Her.
Ouais. De Spike Jonze.
Ouais. Ouais. Qui a été réalisé, je ne sais plus en quelle année pour le coup.
En 2013, je crois.
2013, ouais. Ok. Ah ouais, ok, j'aurais pensé qu'il était encore plus récent que ça.
Ouais.
Qui du coup, en fait, va être dans un environnement et une atmosphère un peu différente, mais qui va en fait un peu traiter de la même thématique, c'est-à-dire de personnes, entre guillemets.
Ouais, de relations.
Qui tombent amoureuses. Enfin, ça va se... Bon, pour résumer très rapidement, c'est du coup l'histoire d'un homme dans une société un peu dans un futur proche qui va en fait tomber amoureux de son système d'exploitation qui
est une voix de femme. Et oui, ils ont une relation un peu après qui est de l'amour finalement.
Ouais,
c'est la question du coup. C'est quelqu'un qui est très solitaire aussi, pour le coup, le personnage principal. Donc, on retrouve ce côté-là, ce côté de malaise avec l'autre, malaise avec soi-même aussi, et de profonde mélancolie, profonde dépression. Enfin, profonde, peut-être pas, mais en tout cas, un état un peu neurasthénique, dépressif, un peu.
Ouais, c'est ça.
Et je trouve que c'est celui qui se rapproche le plus de Eternal Sunshine of the Spotless Mind, parce qu'il y a le côté... Oui, mélancolique. La mélancolie apporte le rêve. Là, oui, c'est pas totalement un film dépressif. Il y a le côté un peu rêvé qui est la science-fiction aussi. Et le fait que le personnage principal est quelqu'un un peu créatif aussi.
Ouais, c'est ça. Avec le côté où tu vas beaucoup idéaliser aussi, etc.
Aussi, ouais.
Et je trouvais que dans Her, comme dans Eternal Sunshine, on avait le côté un petit peu de... la relation un peu vouée à l'échec, entre guillemets, où t'as, tu sais plus ou moins qu'il y a un moment où ça marchera plus. En tant que spectateur du film, tu sais qu'il y a un moment où ça peut pas continuer comme ça et où ça va forcément merder.
Exactement.
Et du coup, là-dessus, je trouvais que c'était assez similaire.
Et sinon, est-ce que t'as d'autres... Ouais, non, mais allez, à moi. J'avais pensé à Lost in Translation.
Ouais.
De Sofia Coppola, l'année je sais plus, mais ça fait un petit moment déjà, qui reprend un peu ce truc là enfin voilà, c'est Bill Murray qui va au Japon et qui est tout seul et il rencontre Scarlett Johansson. C'est la même que dans Her d'ailleurs.
Ah oui,
c'est
exactement
celle qui fait la voix dans Her. Donc, coïncidence, je ne crois pas. D'ailleurs non, en vrai je pense qu'il y a plein de choses qui peuvent être en commun. Après, je vais digresser. Mais il se trouve que Spike Jonze et Sofia Coppola ont été ensemble pendant longtemps et que Lost in Translation raconte plus ou moins la rupture entre Sofia Coppola et Spike Jonze. Et après, Spike Jonze a fait Her, donc avec des choses très similaires. Voilà, c'était la petite anecdote rigolote, mais qui n'en est peut-être pas une.
Je ne savais pas.
Pour les vrais qui savent. voilà, ouais, c'est ça. Donc en fait, on a une espèce de réseaux de films mélancoliques, je pense, qui peuvent se trouver comme ça. Moi, je pensais que même toute la filmographie de Spike Jonze, en fait, en soi, est quelque chose qui va ressembler à ça, enfin, dans la mélancolie, dans le côté être quelqu'un de créatif et un peu dépressif et qui va avoir du mal à être en contact avec les autres, qui va avoir du mal à s'accepter soi-même, trouver des moyens. Enfin, voilà, tous ces films ont un peu cette fibre-là, de près ou de loin. Les personnages sont un peu tous les mêmes à chaque fois, donc voilà, je pourrais conseiller ça. Et ouais, t'avais peut-être un autre film.
Ouais, moi j'en avais mis deux autres de côté.
Vas-y.
Que je peux réunir en une réponse, puisqu'on se fait un peu rattraper par le
mais,
temps.
Mais je t'en supplie.
je vais me dépêcher. J'avais mis de côté le film Mister Nobody et le film 500 jours ensemble. Que je peux grossièrement réunir sur
tu fais un pack
sur l'idée que en fait dans ces deux films on a beaucoup le côté de rêve, de réexplorer ses souvenirs, de faire des choix, de prendre des décisions qui vont potentiellement tout changer, le côté un peu de destin, etc. Dans Mr. Nobody, on va surtout avoir le côté, voilà, le côté souvenir, le côté un peu rêve, le côté même un peu d'univers parallèle, etc. Alors que dans 500 jours ensemble, on va retrouver tout un film en fait qui est pas chronologique du tout. Mmh. Et qui, du coup, pour moi, ressemblait un peu à Eternal Sunshine à ce niveau-là.
Ouais, exactement.
Et où on avait aussi cette thématique de la relation de couple, de la relation de couple en plus qui ne marche pas non plus. Et réexplorer tout ça avec un regard différent, en revoyant en fait les jours passés ensemble, les souvenirs en commun, etc. Et voilà, je trouvais que les deux se prêtaient assez bien aussi dans la même veine, quoi.
Bon, avec tout ça, on a le moyen de se faire une bonne session ciné, là, ce week-end, pour ceux qui veulent se faire un rattrapage, pour ceux qui n'ont pas vu ces films. On vous les conseille. En tout cas, merci, Johanna.
Merci
c'était,
à toi.
C'était trop cool. On a bien parlé, effectivement.
Ouais,
ça fait une bonne session, là, aussi, nous. Je vous remercie aussi, auditeurs, de nous avoir écoutés. On vous remercie. Et puis, merci aussi...
Merci à Louis.
Voilà ce que j'allais dire. Merci. Louis à la technique. et à bientôt sur l'apérophonie et sur Campus Grenoble 90.8.
Merci beaucoup. À bientôt.
À bientôt.